Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à son bon nom. Nous voulons ouvrir la parole de Dieu. Dans le livre des Proverbes, nous voudrions parler aujourd'hui de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, ça fait partie de ces expressions contre lesquelles les hommes ont des préventions bien souvent parce que même parfois des chrétiens n'aiment pas trop. Parce que le mot crainte, c'est pour un synonyme de peur. Alors, il faudrait quelque part avoir peur de Dieu, et beaucoup n'aiment pas cette idée-là. Alors que dans la réalité biblique, alors, tous les enfants qui savent parler, je ne veux pas les entendre. D'accord ? Je répète ça. Ceux qui ne savent pas parler, pas comprendre, on comprend. Hein ? Les autres, merci. Voilà. Donc, alors que dans la réalité biblique, eh bien, cette expression, la crainte de l'Éternel, a un sens beaucoup plus riche et beaucoup plus varié. Et c'est pour ça qu'il est bon que nous puissions en saisir mieux, quelque part, la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur, et connaître la crainte de l'Éternel d'une façon approfondie et complète, de manière à ce que nous puissions effectivement recevoir toutes les bénédictions. Parce que la crainte de l'Éternel est réellement un canal privilégié de beaucoup de bénédictions. Et le livre des Proverbes va bien nous aider en cela, parce que vous avez là une vingtaine de mentions de la crainte de l'Éternel, avec à chaque fois une richesse de caractère, une richesse de sens qui va nous être très précieuse. Le titre de notre méditation de ce matin, ça va donc être évidemment « La crainte de l'Éternel d'après le livre des Proverbes ». Alors nous allons juste faire un survol, hein, parce que c'est un sujet extrêmement vaste, mais déjà, nous pourrons certainement être tous édifiés et encouragés à creuser la question chacun pour notre part. Alors, quand même, il faut réaliser que l'aspect « peur de l'Éternel » n'est pas tout à fait absent de l'expression « crainte de l'Éternel hein ». L'Écriture nous dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, qui ne craindrait un feu dévorant hein? Donc, on prend des précautions avec le feu, et c'est raisonnable, et c'est salutaire. Ne pas avoir la crainte du feu serait insensé, serait stupide, serait dangereux. De même, faut-il avoir cette crainte de l'Éternel, cette peur salutaire, tout en sachant qu'il y a bien plus que cela. Vous savez, moi, quand je suis venu au Seigneur, j'avais peur d'aller en enfer. C'était une crainte salutaire. C'était une crainte qui m'a amené à me tourner vers le Seigneur. Parce que je me dis, ben, je ne veux pas aller en enfer. Après, heureusement, j'ai découvert d'autres raisons de m'attacher au Seigneur. Hein. Donc, il ne fallait pas que ça se limite à cela. Mais quand même, c'est une part du sujet qui est importante et qu'il faut rappeler. Alors, avant de continuer à développer, voyons dans le premier chapitre du livre combien cette crainte est nécessaire. Chapitre 1, versets 28 et 29, nous lisons « Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. » Voyez-vous ? Voilà, il est question là de gens auxquels Dieu ne répondra pas, il ne va pas répondre à leurs prières, il ne va pas agir pour eux. Il ne va pas intervenir en leur faveur. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Dieu ne va pas répondre parce qu'ils n'ont pas eu cette recherche, cette démarche délibérée, décidée, volontariste, de chercher la crainte de l'Éternel. Et Dieu ne se révélera pas à eux tant qu'ils resteront dans cette position-là, dans cette attitude-là. Ils ne trouveront pas parce qu'ils cherchent mal, et avec de mauvaises dispositions. Et ainsi, voyons-nous que la crainte de l'Éternel, c'est une nécessité absolue pour être exaucé dans nos prières, hein, puisqu'après, il est dit que le Seigneur veut exaucer, et pour que le Seigneur se révèle à nous, et donc, par conséquent, pour notre salut. Alors, dans la suite de notre méditation, nous développerons surtout deux grands points, deux grands chapitres. En premier, ce que c'est que la crainte de l'Éternel, différents aspects de la crainte de l'Éternel d'après le livre des Proverbes, et on pourra en soulever une dizaine. Et puis notre deuxième point, Dieu voulant, ce seront les précieux avantages de la crainte de l'Éternel. Et là aussi, nous pourrons voir une dizaine de points dans ce même livre des Proverbes. Donc en premier, qu'est-ce que la crainte de l'Éternel ? Nous avons différents aspects permettant de la comprendre. Dans le chapitre 2, verset 5, il est écrit « Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel ». Il faut arriver à comprendre la crainte de l'Éternel. Et le texte nous laisse entendre que ce n'est pas si évident que ça au premier abord. on peut se faire de mauvaises idées sur la question. Il s'agit de quelque chose de complexe. Mais malgré tout, depuis le début du chapitre, donc chapitre 2, avons-nous dit, versets 1 à 4, il nous a expliqué exactement comment nous pouvons arriver à comprendre. Et c'est pour ça que nous allons lire maintenant, chapitre 2, versets 1 à 5. « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Voilà. Donc l'image qui est employée, c'est intéressant. L'image qui est employée, qui nous est dite là, c'est celle du chercheur de trésor. Vous savez, le chercheur de trésor, ben, il a entendu dire qu'il y a un trésor quelque part, je ne sais pas, bon, au fond de la mer, dans un endroit. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par aller chercher dans les archives historiques, etc. Il va commencer à rassembler des indices. Et puis au fur et à mesure qu'il trouve plus d'indices, que ça devient plus précieux, plus précis, qu'il commence à cerner de mieux en mieux où se trouve le trésor, de plus en plus aussi, la fièvre s'empare de lui et de plus en plus, il y va. Hein, il y va parce que justement, le voilà de plus en plus motivé, parce que ça le, en plus, au fur et à mesure qu'il approche du but, il est de plus en plus encouragé dans cette direction et dans cette direction-là. Et voilà, et la recherche de la crainte de l'Éternel, c'est la même chose. C'est le même principe qu'on peut voir là. Donc, cette aspiration, grandissante. Ensuite, il y a une deuxième chose à relever. Dans le chapitre 1, verset 7, il est marqué « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. » La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Ce qui nous est conforté au chapitre 9 et au verset 10, où il est marqué « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » On en est le commencement. Ça veut dire que si on veut devenir sage, selon Dieu, mener une vie de sagesse aussi, et si on veut bien se conduire dans l'existence sur cette terre, pour être sauvé aussi pour l'éternité, cette sagesse-là, indispensable, eh bien, la crainte de l'Éternel, c'est le point de départ. On ne peut pas s'en passer. Elle est indispensable, on ne peut pas s'en passer plus qu'une maison ne peut se passer de son fondement, de sa fondation. Hein. C'est l'ingrédient qui est indispensable au départ. Et c'est dit deux fois pour nous en confirmer l'importance. Donc, c'est le fondement, c'est la base. Ensuite, je poursuis et je passe maintenant au chapitre 14 et au verset 2, que je lis aussi, et il est marqué là, « Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. » Le fait d'être droit de cœur, de marcher dans la vérité, d'être sincère, d'aimer, de rechercher la vérité, c'est un signe évident que la crainte du Seigneur est en nous. Mais la deuxième partie du verset que nous avons lu là, celui qui prend des voies tortueuses le méprise, elle nous fait réaliser combien ceux qui ne sont pas droits de cœur méprisent Dieu. Quand vous marchez dans une voie tortueuse, vous faites comme le serpent ancien qui est toujours en train de sinuer, qui est toujours en train de se tortiller dans sa progression. Lui, il est le menteur. Lui, il est le père du mensonge. Quand on fonctionne avec le mensonge, on a un problème de crainte de l'Éternel, en fait. Hein ? Ça, c'est quand même une réalité. Donc, notre passage est clair aussi sur ce point. Je retourne un petit peu en arrière au chapitre 3 et au verset 7 maintenant. Et je trouve un autre caractère, enfin un autre aspect du sujet. Il est marqué là, « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Alléluia. Quand on a la crainte de Dieu, on se détourne du mal. Et comment est-ce qu'on va le faire? Comment est-ce qu'on va se détourner du mal? Mais écoutez, en combattant le mal par le bien. En prenant des positions radicales. Vous savez, le Seigneur dit, si ton pied est une occasion de chute, arrache-le. Si ton bras est une occasion de chute, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire physiquement. Mais ça veut dire qu'il faut prendre une position radicale dans ces sujets-là. Voyez-vous, c'est ça que ça nous indique. Et puis, comment est-ce qu'on va aussi se détourner du mal? Eh bien, en nourrissant de bonnes choses, en nourrissant notre âme avec de bonnes choses, des choses édifiantes, intéressantes, constructives, bien sûr, la parole de Dieu en tête. Et puis, en n'y perdant pas son temps, bien sûr, en n'y perdant pas son énergie, donc se détourner du mal aussi. Et puis, ça se fait également, comme nous l'avons vu aussi dans le début du verset, « Ne sois point sage à tes propres yeux ». Oh, ça, c'est important. Hein, pourquoi ? Vous savez, il faut qu'on se souvienne toujours de notre faiblesse naturelle, de nos propres manques, de nos tendances qui nous emmènent si facilement dans la mauvaise direction. Ça, c'est la réalité. Hein. Si on se connaît un petit peu soi-même, c'est comme ça. Et puis, ça va nous aider à ne pas nous prendre trop au sérieux. Ça aussi, c'est important, vous savez. Il y a quelqu'un qui disait, celui qui a appris à rire de lui-même n'a pas fini de s'amuser. C'est vrai. Et puis, à réaliser aussi toujours, de mieux en mieux, notre besoin continuel du Seigneur en toutes occasions. Et le verset 8, qui est directement lié, qu'on a lu, ça nous parle des effets bénéfiques considérables sur la santé, sur le renouvellement physique, d'avoir cette crainte de l'Éternel. J'avance et je passe au chapitre 8, au verset 13, où je trouve mon cinquième point. Et là, nous lisons « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil. » La voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Voilà. Donc, ça veut dire que ça va plus loin que le point qu'on vient de voir. Le point de voir, on disait, la crainte de l'Éternel, c'est se détourner du mal. Là, c'est marqué, c'est haïr le mal. C'est haïr le mal, donc le détester. Et la suite de ce verset 13 nous montre ce que nous devons spécialement détester. Déjà, l'arrogance. L'arrogance, c'est ce qui nous fait mépriser les autres. C'est ce qui nous fait nous mal conduire envers les plus petits et les plus faibles. Ça, c'est l'arrogance. Après, l'orgueil, c'est ce qui nous fait nous croire supérieurs aux autres. Hein ? Après, la voie du mal, bien, c'est le fait. Ça nous arrive malheureusement à tous de pécher. Mais quand on reste dans son péché, quand on s'en justifie devant Dieu, là, on est dans la voie du mal, vous comprenez ? C'est la différence. La différence entre la chute dont on se repent, qu'on regrette, et puis à laquelle on vient au Seigneur pour qu'il nous pardonne et nous purifie, c'est une chose. Mais la voix du mal, ça, c'est là, il n'y a pas de crainte de l'Éternel. Et puis la bouche perverse. La bouche perverse, c'est quoi ? Ben, c'est les mauvaises paroles, les mensonges, les médisances, les calomnies, les paroles négatives, les paroles d'incrédulité. Et il devrait y avoir, je crois, comme une espèce de gyrophare dans notre tête qui se met à clignoter en signe d'avertissement et de danger quand ces choses apparaissent dans notre existence pour que nous puissions, je dirais, les engager en combat résolu dans notre vie d'abord et aussi dans l'œuvre de Dieu quand notre adversaire essaie de les répandre. Amen. Et puis la crainte de l'Éternel aussi enseigne la sagesse. C'est ce que nous voyons là, clairement, dans le chapitre 15 et au verset 33. Pardon. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Et l'accent est mis là, tout spécialement, sur l'importance de l'humilité. Parce que celui qui craint l'Éternel est réellement humble. Et il faut qu'il en soit ainsi d'après le verset 32, le verset précédent, dont le sens est lié. C'est pour ça que je relis maintenant avec le verset 32. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Vous savez, moi je n'aimais pas quand mon père me donnait des corrections. Il me donnait la correction des fois, je vous garantis, il m'en a donné, hein. Et à l'époque, ça se passait ici. Hein. Ben vous savez, ça ne m'a pas fait de mal. Ça m'a fait du bien. Je vous dis franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je n'aimais pas la correction, mais je vois que ça m'a fait du bien des quantités de fois. Et la réprimande, vous aimez la réprimande quand quelqu'un vous réprimande ? Ben moi, je n'aime pas la réprimande. Mais si on sait écouter ce que les gens nous disent, je ne dis pas forcément que toutes les réprimandes sont justifiées en tout point, mais vous avez souvent quelque chose de bon à tirer de la réprimande. Et c'est pour ça qu'il est parlé d'humilité, mes amis. Parce que l'humilité, ben, ça va nous faire nous dire, ben oui, j'ai aussi besoin d'être corrigé. Oui, j'ai aussi besoin d'être réprimandé. Et c'est aussi quelque chose qui va me faire avancer, voyez-vous ? Va nous faire grandir, va nous apprendre des choses. Hein. Ce n'est pas ceux qui nous caressent dans le sens du poil, c'est ceux qui nous flattent qui vont nous apprendre des choses. Hein. Ce n'est pas comme ça qu'on apprend. Hein. Mais là, on voit cette bonne disposition dont notre passage nous parle. Chapitre 16 et au verset 6 maintenant. « Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. » Et là, il est rappelé ce que nous avons dit, c'est-à-dire que cette crainte de l'Éternel se détourne, fait nous détourner du mal, mais ça va plus loin. Parce que là, il est parlé d'une double motivation, justement, pour nous détourner du mal. C'est de manifester de la bonté et de la fidélité. Alléluia. Hein ? Ça, c'est vraiment un très bon moyen pour combattre efficacement le mal. Quand il dit « ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien », ben voici la bonté et la fidélité qui sont là pour nous aider à cultiver de bonnes pensées, lutter contre les mauvaises, avoir à cœur de prononcer de bonnes paroles, et ceci de façon consciente, résolue, engager notre vie tout entière dans une bonne cause, dans la grande cause, éveiller à la maintenir là. Vous savez, Dieu a préparé pour chacune et chacun d'entre nous d'avance de bonnes œuvres. Alléluia. Alléluia, béni soit son nom. Hein. Et n'oublions pas les paroles d'approbation du Seigneur, celles de l'accueil des siens dans la gloire. Ah, ça, c'est quelque chose qui devrait toujours nous encourager. Le Seigneur a dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Et vous remarquez, la bonté et la fidélité là se retrouvent, rejoignent la bonté et la fidélité dans notre passage des Proverbes et nous montrent l'unanimité et l'accord de toute la parole de Dieu sur la question. Amen. Et si j'avance encore, voici mon huitième point, ça se trouve au chapitre 23 et au verset 17 et 18. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Alléluia. Voilà. Ah, vous savez, la tendance humaine, c'est quoi ? C'est de faire des comparaisons, et de se dire, ben, injustifié d'ailleurs, hein, on va s'attacher aux apparences, on va juger sur l'apparence, on va envier peut-être la réussite de l'un ou de l'autre. Ah, ben regarde, un tel ou une telle. Vous savez, vous n'êtes pas dans la peau des autres. Hein. Vous voyez peut-être quelque chose. Justement, les apparences, les gens essayent de soigner leurs apparences. Mais comment ça se passe à l'intérieur ? Ça, on ne le voit pas, on ne le sait pas. Hein ? Ben, nous, on juge sur l'apparence. Et puis, on peut en arriver à se dire, la tentation vient. Ben, la fin justifie les moyens. Puisque lui ou elle fait comme ça et que ça marche, pourquoi est-ce que je ne ferais pas pareil ? Ah oui, mais, ah, mais voilà. Hein ? Il faut considérer la rétribution finale de chacun. Voilà ce que l'Écriture nous dit. Et puis, il faut s'attacher à l'avenir éternel. Il est un avenir. Ton espérance ne sera pas anéantie, dit notre texte. N'oublions pas que Dieu met chacune et chacun d'entre nous à l'épreuve. Quoi qu'il en soit, tous, même le juste, hein, même au travers de choses comme ça, pour voir si oui ou non, nous allons nous laisser prendre par ces façons de fonctionner, ou si nous avons dans notre cœur la crainte de l'éternel. C'est Dieu qui nous met à l'épreuve pour ça. Et c'est pour ça qu'il faut garder nos yeux fixés sur la rétribution finale. Il faut garder nos yeux fixés sur l'avenir glorieux. Nous réjouir en espérance. Nous avons une joie que personne ne peut nous ôter. Alléluia. Hein ? Celle d'avoir notre nom inscrit dans les cieux. Avec tout ce que ça signifie. Avec tout ce que ça veut dire. Et qui pourra dire l'éternité bienheureuse de ceux qui ont cette assurance. Amen. Notre neuvième point maintenant, c'est dans le chapitre 28 au verset 14. Et là, il est marqué, déjà depuis le verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. » Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Pas seulement à certains moments, dans certains lieux, certaines compagnies, mais continuellement. Aussi quand on est seul, dans des circonstances avec un entourage non chrétien, en dehors des réunions, en dehors de la communion, de la présence d'autres chrétiens. Et vous avez là une béatitude. Vous avez vu, c'est marqué heureux. Une béatitude. C'est-à-dire une promesse de bonheur particulier. Un bonheur précieux, un bonheur puissant pour ceux qui sont ainsi, pour ceux qui veulent être ainsi. Et d'après le contexte précédent, donc verset 13 et puis la fin du verset 14 qu'on a pu voir, eh bien, c'est aussi lié au fait de ne pas endurcir son cœur, de ne pas cacher ses transgressions, en particulier de ne pas les cacher à Dieu, puis de ne pas les cacher non plus peut-être à ceux qui peuvent nous soutenir dans certaines luttes particulièrement difficiles que nous avons personnellement, hein, difficiles à gagner, nous en avons tous, voilà. Et puis de les avouer, de les délaisser avec le secours de Dieu qui est alors pour nous le Dieu des délivrances. Amen, amen. Et puis notre dixième point, c'est le dernier verset du livre des Proverbes, chapitre 31, verset 30. « La femme qui craint l'Éternel » et celle qui sera louée. Alors, je dois vous dire, il y a des gens qui vont vous dire peut-être, ouais, la Bible, c'est un livre misogyne. Eh bien, lorsque vous lirez le livre, ce chapitre-là, vous verrez que la Bible n'est pas du tout un livre misogyne. Bien au contraire. Hein. Cette précieuse crainte de l'Éternel se manifeste de diverses façons en ce qui concerne cette femme dont il est parlé là. Dans tout le passage, depuis tout le chapitre, enfin déjà surtout depuis le verset 10 de tout le chapitre-là, vous pouvez voir que la grande motivation de cette femme, c'est la crainte de l'Éternel. C'est ce qui gère tout son comportement, c'est ce qui lui aide à accomplir toutes ses œuvres remarquables qui sont décrites depuis le verset 10. Voilà, c'est grâce à cette crainte de l'Éternel donc que elle est la réalisatrice de ces choses. Alors ça concerne pas seulement les femmes, hein. Je pense que tout un chacun a besoin d'en prendre de la graine. Et là vous avez une quinzaine de choses différentes qui mériteraient d'être développées, mais que je vais quand même vous citer pour nous aider à comprendre dans la pratique ce que c'est que la crainte de l'Éternel. Il est dit déjà qu'elle est vertueuse. Sa conduite est particulièrement vertueuse au verset 10 et au verset 29, déjà. Hein, donc, ensuite, elle fait du bien et du mal à son conjoint tous les jours de sa vie. Donc, ça veut dire qu'elle reste dans une entière fidélité. C'est dans le verset 12. En troisième, puisqu'elle est motivée, elle travaille d'une main joyeuse, persuadée que ce qu'elle a et que ce qu'elle fait est selon la volonté de Dieu. Hein, nous pouvons être persuadés en ce qui concerne le travail que Dieu met devant nous aussi pour cela. Et puis, nous voyons qu'il est marqué qu'elle amène son pain de loin. Ça veut dire qu'elle est prête à faire des efforts pour gagner son pain. Elle sait que les choses ne sont pas toutes seules, hein, donc qu'elles ne viennent pas toutes seules. Et c'est pour ça qu'elle trouve toujours une solution. Et je dirais, c'est avec un tel état d'esprit que Dieu donne aussi une solution. Hein. Et si je poursuis encore, vous avez cette image du navire marchand qui est très intéressante. Hein, pourquoi ? Elle est quand même un navire marchand, elle amène son pain de loin. Parce que ça nous parle de travaux et d'investissements à long terme, quelque part. La marine marchande, c'est à peu près le domaine de commerce dans lequel vous avez besoin le plus d'investissements à long terme. Parce que vous devez acheter d'énormes bateaux. Il faut quand même savoir que 95% du trafic international, 95% du trafic international se fait par bateau. Il faut quand même le savoir, hein. Donc, vous êtes obligé d'acheter de grands bateaux avec pour transporter d'énormes cargaisons. Donc, vous êtes obligé d'investir, vous êtes obligé d'avoir une vision à l'avance, vous êtes obligé d'avoir des projets cohérents. Et c'est de cette manière-là que se bâtit le succès. Et elle sait que c'est la même chose pour les entreprises dans lesquelles elle est engagée. L'édification, le maintien d'un foyer, l'éducation des enfants, et je dirais toute l'œuvre de Dieu, c'est comme ça. C'est quelque chose qui nécessite des projets à l'avance et à long terme. Hein, et ce sont des nécessités. Son travail à elle, voyons au verset 15 qu'elle le fait avec ardeur. Et elle peut même donner du travail à d'autres, de manière à ce que personne ne reste oisif et inutile. Hein, ce qu'on voit aussi là. Elle a des projets à terme, au verset 16. Elle n'est pas bloquée, vous savez. Hein, elle n'est pas coincée, non. Des projets, elle travaille avec des buts précis à ses efforts. Elle y a réfléchi. Et puis elle a en même temps mis les choses devant Dieu. On le voit, c'est ce qui est exprimé là. Et ainsi, elle est arrivée à une pleine conviction qui la soutient, et la soutient puissamment. Et je dirais même qu'au verset 17 et 18, au fur et à mesure de l'avancement et de la progression de son travail, elle a des encouragements et des confirmations que ce qu'elle fait est bon. Voyez-vous ? Et c'est ça qui fait qu'elle se fortifie au fur et à mesure et que sa motivation grandit et progresse encore. Dans le verset 20, nous voyons qu'elle secourt les malheureux, tous ceux qui sont dans le besoin, qui sont à sa portée. Et ainsi, elle prouve aussi que la crainte de Dieu est en elle. Et puis au verset 21, il est marqué qu'elle s'occupe bien de pourvoir aux besoins physiques de chacun de ceux dont elle a la responsabilité. Parce que la crainte de Dieu, c'est aussi quelque chose qui nous aide à rester concret et à être pratique. Et nous voyons, versets 22, 24, 25, qu'elle a des activités qui deviennent prospères, qui deviennent florissantes à force, oui, de travail, d'épargne, d'esprit d'entreprise, de sagesse et de bonne gestion. Lorsque Dieu s'adresse à Josué et qu'il lui dit que s'il garde sa parole, il réussira dans toutes ses entreprises, ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait des entreprises. Nous comprenons bien, les choses ne vont pas se faire toutes seules. Donc, elle est aussi, nous est-il dit encore au verset 23 et 28, un moyen d'honneur pour son entourage. Son mari est honoré, ses fils, et ça rejaillit évidemment sur elle. Elle prononce aussi des paroles sages, des instructions aimables. C'est marqué dans le verset 26. Ben oui, parce qu'avec toutes ses expériences, elle a fait aussi des expériences de sagesse. Et ses instructions vont être aimables à la fois par leur contenu et par la façon dont elle va les dire. Parce que vous savez, il y a une façon de dire les choses aussi. Et puis elle ne se repose pas sur ses lauriers, on le voit, elle ne se laisse pas aller. Au verset 27, elle sait que tant qu'on est ici-bas, il faut veiller continuellement, en particulier sur ce qui se passe chez soi. Hein, donc ça aussi c'est quelque chose. Et elle ne s'attache pas à la grâce et à la beauté, aux apparences en priorité, ce n'est pas ça son premier sujet. Verset 20, non, ce qui l'intéresse, c'est la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, c'est ça qui est d'un grand prix devant Dieu, et l'apôtre Pierre confirme bien cela. Et on voit ici la mise en pratique détaillée de ce que c'est vraiment que la crainte de l'Éternel. Hein, donc, ces principes généraux qu'on a exposés auparavant, tout au long du livre des Proverbes, vous les voyez là, qui sont traduits en actes et en comportements exemplaires dans cette description qui conclut la fin du livre des Proverbes. Et nous avons aussi tous ainsi de quoi mettre clairement cette crainte de Dieu en œuvre dans tous les domaines de notre vie et dans toutes les situations où Dieu nous place. Amen. Et ceci nous amène maintenant à notre deuxième grand point, maintenant les avantages, les précieux avantages de la crainte de l'Éternel. Il est marqué, chapitre 1, verset 33, que celui qui a la crainte de l'Éternel reposera avec assurance. Si nous avions plus de temps, nous pourrions lire depuis le verset 29 jusqu'au verset 32, donc le contexte précédent, et que c'est pour montrer le contraste qu'il y a avec ceux qui n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Mais pour celui qui écoute, pour celui qui la met en œuvre, quelle paix, triplement assurée. Il reposera avec assurance, premier point. Deuxième point, il vivra tranquille. Troisième point, il vivra sans craindre aucun mal. C'est difficile d'avoir plus d'assurance que ça, n'est-il pas vrai ? Hein, on le voit, c'est une parfaite garantie de protection, de sécurité, de préservation, de secours de la part de Dieu. Et le Seigneur nous assure ainsi une paix merveilleuse. Amen. Le deuxième avantage, chapitre 10, verset 27, « La crainte de l'Éternel augmente les jours », est-il marqué. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah ben, Dieu nous a fixé un certain nombre de jours, Dieu a tout prévu et prévu d'avance, et puis ça ne peut pas bouger en rien. » Ah bon ? Ah bon ? Est-ce que vous croyez, par exemple, que quelqu'un qui fume, quelqu'un qui boit, qui mène la vie, et puis qui raccourcit sa santé, est-ce que vous croyez que c'était la volonté de Dieu ? Est-ce que vous croyez que c'était le plan de Dieu pour sa vie ? Pas du tout. Et vous avez l'inverse qui est marqué là aussi. « La crainte de l'Éternel augmente les jours ». Ça veut dire que Dieu peut nous donner plus que notre mesure de jour si nous avons cette crainte de l'Éternel. Et comment est-ce que ça peut se faire ? Ben déjà, par exemple, parce qu'on n'est pas obligé de vivre dans un stress excessif. Vous savez, le stress, c'est quelque chose qui détruit beaucoup. Hein. C'est une réalité. Hein. Puis aussi, on est épargné de bien des maux. On est secouru fidèlement de bien d'autres maux. Par le fait aussi, l'Écriture nous dit, les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, quoi ? Renouvelle leur force. Alléluia. Ça aussi, c'est une promesse qui s'accomplit. Et puis par le fait qu'on a une vision positive de l'existence. Oh, cette année, vraiment, ça va être terrible. Avec la Covid, là, on ne va pas s'en sortir. Ça va encore être une année pourrie. Oui, vous pouvez voir la vie comme ça. D'accord. Ben, voyez la vie comme ça. Vous allez voir ce que vous allez voir comme avenir. Vous confessez ça, mais c'est ça qui va se réaliser puisque vous l'avez confessé. Après, vous pouvez vous dire, mais dans la vie, il y a des épreuves. Il y en a eu en 2020, il y en aura en 2021. C'est sûr, c'est comme ça. Mais le Seigneur sera avec nous. Le Seigneur est là pour nous protéger. Ne l'a-t-il pas fait fidèlement ? N'a-t-il pas usé de grâce envers nous ? Et nous avons vu le Seigneur agir. Alléluia. Alors voilà, c'est comme cela. Donc, vision positive de choses, parce que c'est ça que Dieu veut aussi pour nous. Et par-dessus tout, bien sûr, le fait que la bénédiction de Dieu soit sur nous, c'est cela qui augmente les jours sur notre corps, notre âme, notre esprit, sur nos activités et nos projets. Amen. Dans le chapitre 14, au verset 26 que nous lisons, on y arrive, 14, verset 26, « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » Amen. Alléluia. C'est vrai que même dans les périodes où tout est péril et chancellement, parce que quand on regarde le contexte aussi, on voit cela, eh bien, il est un lieu de sécurité, celui qui craint l'Éternel. parce que dans la communion de son Seigneur, dans les promesses de la parole de Dieu, ça fait qu'il est sans crainte lorsque les montagnes chancellent au cœur des mers. Et si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et en plus, tu seras un point de ralliement pour tes enfants. Je voudrais vous lire un témoignage. Ça s'appelle l'empreinte des genoux. L'ensevelissement était terminé et Jim regardait sans rien voir de la fenêtre nord de la vieille ferme. C'est ici, songeait-il, que son père avait l'habitude de se tenir et d'où si souvent il plongeait les regards sur les plaines ondulées et sur les collines. Puis il se tournait tout à coup pour dire « Je viens juste de penser ». Et ses pensées soulignaient toujours quelque chose d'intéressant. Et maintenant, c'était au tour de Jim de penser. Il y a seulement 4 jours, son père semblait aller aussi bien que d'habitude. Puis voici 3 matins, il s'était levé de table après le déjeuner, était allé s'asseoir dans la salle à manger. Là, il avait pris sa Bible usée pour y lire un passage avant la prière. Sa tête s'était alors inclinée sur sa poitrine et son esprit s'était envolé. Jim était sûr qu'il était avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Pendant l'ensevelissement, Jim réalisa plus amèrement que jamais qu'il était le seul des 7 enfants, tous adultes et établis ailleurs, qui n'était pas prêt à suivre son père. Ici, à la maison, dans l'ambiance familiale, ce dernier lui semblait encore étrangement près de lui, et cependant comme séparé par un immense abîme. Il entendit les autres personnes remuer dans la maison et se dirigea vers la grange. Marchant droit devant lui, il arriva à l'extrémité de la prairie. Là, il s'arrêta tout à coup. En face de lui, dans la haie, il voyait la trace de 2 genoux. Il savait qui était venu prier là pour lui en ce dernier matin de sa vie terrestre. Un instant après, ses 2 genoux étaient dans l'empreinte de ceux de son père. Et dans une prière ardente, son cœur brisé et contrit cédait à l'appel du Dieu de son père. Il se releva et se mit à marcher de long en large, dans la joie d'avoir enfin trouvé la vie éternelle. Puis il se hâta vers la maison. Tandis qu'il se tenait sur le pas de la porte, sa mère le regarda en face. Et avant qu'il pût dire un mot, elle s'écria « Oh Jim, je suis si heureuse !» Et dans cette maison où les larmes devaient couler, la tristesse fit place à la joie que le monde ne peut comprendre. Combien de pères bien établis dans la vie seraient heureux de voir leurs fils suivre leurs traces ? Bien des fils d'ailleurs suivent l'exemple de leur père en exerçant la même profession avec un succès remarquable. Mais combien plus importante que l'empreinte des pas est l'empreinte des genoux, qui indiquera à la génération future le but glorieux à poursuivre sur cette terre et dans l'éternité. Bien des pères laissent à leurs enfants l'empreinte de leurs pas, mais combien de pères chrétiens peuvent-ils laisser à leurs fils l'empreinte de leurs genoux qu'ils ont su ployer dans la prière ? Un père pieux déclara un jour « Avant que mes enfants ouvrent les yeux à un nouveau jour, je les ai déjà présentés au trône de la grâce. Et après qu'ils ont fermé les yeux pour une nuit de repos, je demande à leur Père céleste de les entourer de son amour et de ses tendres soins, non seulement pour la nuit, mais au travers de toute leur vie. Est-il étonnant que ces enfants aient trouvé le Seigneur dès leur jeune âge et les servi fidèlement ? Si les enfants voyaient davantage les empreintes des genoux de leurs parents, il y aurait davantage de chrétiens dans la génération qui se lève. Père, où sont l'empreinte de tes genoux ? Et cela s'adresse aussi bien sûr aux mères, ainsi qu'aux pères et mères spirituels qui ont l'amour des âmes, le souci des nouveaux convertis, de ceux qui sont récemment nés de nouveau, qui sont encore des enfants dans la foi, afin de les aimer et de prier pour eux avec ardeur. Amen. Précieuse crainte de Dieu, qui est ainsi aussi un puissant moyen de salut pour les membres de nos familles. Amen. Et puis, je poursuis, et je trouve qu'au chapitre 13 et au verset 13, il est marqué « Celui qui craint le précepte est récompensé ». Et ainsi voyons-nous que la crainte de l'Éternel se confond avec le profond respect, la grande considération de la parole de Dieu, de ses instructions, de ses exhortations et de ses préceptes. Et n'est-il pas normal qu'il en soit ainsi, puisque la parole, c'est Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus, c'est la parole incarnée. Et si vous coupez la parole de Dieu, c'est comme si vous coupiez en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Hein ? Et donc, ceux qui ont cette crainte de Dieu, est-il marqué ils craignent le précepte. C'est-à-dire chaque précepte. Chaque précepte. Il n'y en a pas un qui soit sous-estimé, il n'y en a pas un qui soit mis de côté. Et ce serait mépriser la parole et celui qui l'a donnée, bien sûr, que d'agir autrement. Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous pour juger la parole, pour placer notre jugement au-dessus de la parole ? Ce serait se mettre soi-même dans un chemin assuré de perdition. Mais quand nous craignons le précepte, nous avons à cœur d'y obéir et de le faire avec zèle, avec foi, avec amour pour celui qui nous l'a donné pour notre bien et dans sa merveilleuse sagesse. Et celui-ci va donc nous récompenser des bénédictions d'en bas comme de celles d'en haut, d'exaucement de prières de toutes sortes, d'accomplissement de ses promesses, de réponse à nos besoins en confirmation de ce que dit sa parole, sans parler bien sûr de la récompense céleste. Et puis au chapitre 14, au verset 27, il est écrit encore, c'est notre cinquième point, « La crainte de l'Éternel est une source de vie » pour détourner des pièges de la mort. Ne sous-estimez jamais le diable. Le diable est quelqu'un d'une intelligence raffinée. C'est quelqu'un d'une méchanceté, d'une subtilité dont on n'a même pas le début d'une idée, heureusement pour nous. Hein ? Si le diable vous met des pièges sur votre chemin, vous ne pouvez pas y échapper. Ils sont beaucoup trop sophistiqués. Et il en met sur le chemin. Il en met sur le chemin de tout le monde. Hein ? Ces pièges sont machiavéliques et on peut échapper à l'un, peut-être oui, de manière inconsciente, bien souvent d'ailleurs, mais l'ennemi en a placé d'autres ailleurs, quel que soit le chemin que nous choisissons, et il est quasiment impossible d'y échapper. Sauf ceux qui ont la crainte de l'Éternel qui en seront protégés. Il faut quand même se dire cela. Et même, ils ont un antidote. Si il se trouve dans certaines situations, si la mort vient sur nous, alors il est marqué qu'il est une source de vie, le Seigneur. Une source de vie pleinement abondante et suffisante pour que la mort soit vaincue par la vie. On a encore eu un très beau témoignage, très encourageant, hein, celui d'une sœur qui nous a expliqué sa situation. Ça fait déjà un moment que cette situation durait. C'était vraiment une situation problématique. Et donc, elle avait des mauvaises circulations dans ses jambes. Et puis, elle a fait, il y a des semaines en arrière, une mauvaise chute dans ses escaliers. Ça lui a laissé des gros bleus aussi, spécialement sur une jambe. Donc, et puis, le sang ne s'évacuait pas. Les bleus ne s'évacuaient pas. Donc, le sang restait là. Et le sang se coagule sur place, dans les veines. Et puis, ça amène une infection, ça amène une corruption. C'est dangereux. C'est dangereux et le médecin était vraiment extrêmement soucieux à son sujet. Hein, donc, donc il avait dit, écoutez, il n'y a pas d'autre solution que l'opération à l'hôpital. Hein, et puis rapidement en plus. Donc, et elle n'était pas du tout d'accord. Hein, enfin, elle était. Et je me souviens qu'elle a prié, on priait déjà pour ça, mais là on a redoublé de prière. Hein, on a vraiment mis comme sujet de prière prioritaire là. Et puis, voilà ce qui s'est passé, comme quoi, Dieu utilise la Covid-19 pour faire un miracle de guérison. Vous voyez ce qui s'est passé, je vous explique, c'est que le médecin a demandé à ce qu'elle soit accueillie à l'hôpital, et à l'hôpital, ils n'avaient pas de place. Ils ne pouvaient pas l'accueillir à cause de la Covid-19, vous savez, ils repoussent les opérations, etc. Alors donc, qu'est-ce qu'il a fait, le docteur? Il a fait ce qu'il a pu, avec les moyens qu'il avait, il n'était pas du tout optimiste pour ça. Et puis voilà qu'il s'est aperçu à sa grande surprise qu'il y avait une très nette amélioration qui s'opérait. Au point qu'il a pu lui dire, ben écoutez, il n'a pas dit sœur, c'est moi qui dis sœur. Il a dit, ben écoutez, vous n'avez plus besoin d'opération, vous n'avez plus besoin de l'hôpital. Et puis comme elle disait Alléluia, il lui a dit, ben vous avez eu effectivement un beau cadeau de Noël, qu'il a dit le docteur. Alors voilà, et nous on sait d'où vient le cadeau de Noël, hein. Nous, on sait d'où vient le cadeau de Noël. Alléluia. On prie encore pour elle, mais Dieu a fait admirablement son œuvre. Et le Seigneur est là. Le Seigneur, vous savez, il n'est pas confiné. Le Seigneur, il n'est arrêté par rien ni par personne. Béni soit son nom. Il est libre et il intervient. Il est toujours le même. Il ne change absolument pas. Béni soit son nom. Amen. Et puis le chapitre 15, au verset 16, nous rappelle une autre chose encore. La crainte de l'Éternel vaut mieux qu'un grand trésor. Il est marqué là, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Et voilà, mais bien sûr. Imaginez quand on vous dit, voilà, vous serez toujours malade, mais vous aurez un trésor. Voilà. Qu'est-ce que vous préférez ? pouvez acheter tous les médicaments que vous voulez avec ce trésor, mais est-ce que vous allez acheter la santé? Ah ben non, vous n'achèterez pas la santé. Ou bien alors, si vous n'arrivez pas à dormir, hein, imaginons, vous pouvez acheter un lit confortable, mais est-ce que vous allez pouvoir acheter le sommeil? Ben non, vous n'achèterez pas le sommeil non plus. Hein. Ou bien, par exemple, si vous ne pouvez pas avoir confiance dans ceux qui sont autour de vous, alors vous pouvez acheter des employés, vous pouvez acheter des gardes du corps, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, embaucher tout ça, mais pas de véritables amis. Les véritables amis, ça ne s'achète pas. Hein. Et puis, imaginez, vous avez un trésor, mais vous êtes toujours dans la peur, dans l'anxiété. Ah, vous pouvez vous acheter des calmants, oui, c'est vrai, pour vous assommer la nuit, mais vous n'aurez pas la paix profonde et vraie. Ça aussi, ça ne s'achète pas. Ou bien, par exemple, voilà, vous n'avez pas d'appétit, vous n'avez aucun goût aux aliments. Eh bien, effectivement, vous pouvez acheter les nourritures les plus luxueuses, mais l'appétit, vous ne l'achèterez pas. Toutes les choses importantes ne s'achètent pas, mes amis. Il faut quand même se souvenir de cela. Hein. Donc, ça veut dire, il vaut mieux avoir peu avec la crainte de l'Éternel. Lorsque je me souviens du prophète Élie, lorsqu'il est arrivé chez la veuve de Sidonienne, ben, qu'est-ce qui se passait? Ils avaient tous les jours de la farine dans le pot, de l'huile dans la cruche, et c'était renouvelé tous les matins. Ce n'était pas des quantités, mais c'était suffisant pour vivre pendant toute cette situation de famine, et c'était la preuve que Dieu était là pour secourir et pourvoir jour après jour. Et puis ceux qui ont suivi le Seigneur quand ils ont marché dans le désert pendant 3 jours derrière lui et qui les a nourris aussi avec des pains et des poissons, puisqu'ils cherchaient le royaume de Dieu et sa justice, premièrement, eh bien le Seigneur a fait des miracles pour eux. Alléluia, alléluia. Et l'Écriture nous dit que si nous avons cette attitude, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Amen, amen. Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoira. Amen. Et puis le 7e point, c'est que la crainte de l'Éternel mène à la vie. Chapitre 19, verset 23. On va encore lire cela. Tenez bon, on approche du bout. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Ah, le malheur, ça existe. Le malheur qui rôde la nuit. Eh oui, ça existe. D'autant plus dangereux, d'autant plus sujet de crainte, mais voilà, mais on est protégé et préservé parfaitement par le Seigneur. Voilà, il qui nous garde tous ses maux sans exception. Et non seulement cela, mais le Seigneur va nous conduire régulièrement, tranquillement, dans le chemin de la vie véritable. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Alléluia, merci Seigneur. Et le Seigneur va nous faire grandir petit à petit, progressivement, de mieux en mieux, et au bout du compte, il nous amène jusque dans la vie éternelle. Béni soit son nom. Quelle gloire, quelle attente pleine de joie, quel avenir admirable, quelle vocation céleste et glorieuse. Alléluia. Le chapitre 22, verset 4, nous dit encore, « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Voilà, richesse, gloire et vie. Est-ce qu'on peut déjà s'attendre à ces choses-là sur cette terre? Ça devrait être le cas si cette terre, au lieu d'être ce qu'elle est en ce moment, était un lieu uniquement de justice, de bonté et d'amour, comme ce sera le cas, par exemple, pendant le règne de 1000 ans. Et en même temps, si le cœur de chacun, et le cœur de chacun de nous aussi, n'était pas facilement saisi par la convoitise. Mais nous savons qu'il n'en est pas ainsi actuellement, et à cause de cela, eh bien, le Seigneur lui-même nous a donné un exemple. L'exemple du dépouillement de toutes ses richesses, afin que par lui nous soyons ainsi enrichis. Il s'est dépouillé de sa gloire, il s'est humilié au plus profond, au plus bas, pour nous sauver. Il a donné sa vie, sacrifié sa vie, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et ainsi, nous devons plutôt nous attendre à cette richesse, à cette gloire et cette vie qui est promise, qui nous sont préparées, qui nous sont accordées dans le ciel, même si déjà ici-bas, bien sûr, nous l'avons vu, bien des encouragements, bien des accomplissements, bien des promesses se réalisent en attendant. Donc, ce que nous attendons, c'est ces richesses éternelles, ce poids éternel de gloire, ces choses qui ne peuvent ni se corrompre, ni se souiller, la vie véritable en plénitude pour l'éternité. Amen. Amen. Et puis, dans le chapitre 28, encore et au verset 14, voilà qu'il est marqué, c'est notre avant-dernier point, « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. » Continuellement. Oui, vous avez là une béatitude encore heureux. Heureux. Au même titre que les béatitudes qui sont contenues dans le sermon sur la montagne, vous savez, dans Matthieu au chapitre 5, ou les sept béatitudes de l'Apocalypse, voilà. Hein. Donc la crainte de l'Éternel, cette sainte crainte de Dieu, s'accompagne d'un bonheur réel et profond. Et si nous sommes continuellement dans cette crainte, nous sommes continuellement dans ce bonheur réel et profond. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur veut nous aider, à ne plus mener une vie chrétienne de haut et de bas, vous savez. Hein. Sa volonté, c'est de nous fortifier et en quelque sorte de nous régulariser, je dirais, hein, pour que nous puissions demeurer continuellement dans cette crainte bénie et aussi être ainsi continuellement heureux en lui. Amen. Et puis le dixième, je reviens sur mon dernier verset du livre, Proverbes chapitre 31, verset 30, « La femme qui craint l'Éternel... c'est celle qui sera louée. » Elle sera louée. Louée, ça veut dire approuvée. Approuvée de tous. Approuvée de tout son entourage. Tout son entourage va la louer. Hein, il nous a parlé de son mari, de ses fils, de bien d'autres qui vont la louer. Ses œuvres aussi vont la louer. Parce qu'elles seront la preuve évidente qu'elle a choisi la bonne part, qu'elle a suivi le bon chemin, qu'à cause de la crainte de l'Éternel qui est éternel, elle a agi de la bonne manière. Et puis bien sûr, le principal, le Seigneur lui-même va la louer. Hein, c'est bien bonne et fidèle servante. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. N'est-il pas significatif en conclusion pour nous que justement la conclusion même de ce livre des Proverbes soit consacrée à la crainte de l'Éternel et à ses conséquences? Et s'il en était encore besoin, eh bien cela nous confirmerait bien l'importance et la nécessité que cette œuvre s'accomplisse dans notre cœur, dans toute notre vie. Et c'est encore le Seigneur qui veut agir en nous pour cela. Béni soit son nom. Amen. Amen. Te remercions, Seigneur, pour ta parole vivante et agissante, pour l'œuvre que tu fais en nous par son moyen, Seigneur. La manière dont tu nous exhortes, dont tu nous consoles, dont tu nous édifies, dont tu nous enseignes, dont tu nous affermis, Jésus. Et merci parce que tu veux nous aider à serrer ces précieuses vérités dans nos âmes et à les mettre en œuvre par ton secours. Nous te glorifions, Seigneur. Et merci aussi pour ces occasions que nous avons encore maintenant de te louer, de te bénir de tout notre cœur pour tout ce que tu accomplis en faveur des tiens. Sois glorifié, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, Dieu de gloire. Quelques annonces. Mercredi après-midi, la réunion est prévue à 16h. Donc, je vous rappelle, c'est 16h. Hein. Prédication en ligne vendredi soir à 20h15. Et je vous annonce dès à présent, nous envisageons des baptêmes pour le 31 janvier. C'est un dimanche. C'est un dimanche à 16h hein, l'après-midi. Donc, c'est exceptionnel. Donc, et la préparation au baptême aura lieu donc le dimanche d'avant, le 24, à 16h aussi. Donc, celles et ceux qui sont touchés, intéressés, se préparent au baptême, eh bien, donc, rendez-vous déjà pour la réunion de préparation qui va être à 16h. Donc, ça va être juste pour eux, hein, c'est une petite réunion à quelques-uns, pour ceux qui seront là. Et les baptêmes eux-mêmes, donc, c'est à 16h le 31, là, évidemment. Tous ceux qui veulent y assister peuvent le faire, hein, il n'y a pas de problème. C'est la seule solution qu'on a avec le couvre-feu, etc. en ce moment, aujourd'hui. Hein, c'est à peu près la seule solution qu'on peut avoir. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne.